Regardez bien les chaises vides autour de vous. Elles n'ont pas vocation à le rester, vides. Notre responsabilité, ça n'est pas de les remplir, parce qu'on ne tire pas sur de l'herbe pour la faire pousser. Mais notre responsabilité, c'est d'être prêt pour le jour où Dieu va les remplir. Ça, c'est ma conviction profonde. Parce que qu'il ait l'intention d'envoyer des gens ici, pour moi, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Maintenant, pourquoi faire ? Pourquoi en faire ? On doit être prêt à nourrir ceux qu'il va nous envoyer. Sinon, c'est simple pour lui. Il les envoie ailleurs. Il se trouve qu'il y a des ailleurs. Et malheureusement, il n'a que l'embarras du choix. Alors, c'est une réflexion que je me suis adressée à moi-même d'abord, évidemment. Et s'il ne s'agissait pas de texte biblique, je dirais, ce que j'ai à dire ce matin, ce ne sont que des banalités. Alors, il n'y a jamais de banalité quand il s'agit de la Bible. Donc je retire le mot aussi vite que je le lance. Simplement, quand je dis banalité, je n'ai à dire que des choses que tout le monde ici sait par cœur. Donc à quoi bon ? Va te rasseoir, c'est ce que vous pourriez me dire. Et effectivement, sauf qu'il y a des choses que moi, en tout cas, après, je ne m'engage que pour moi, que moi, en tout cas, j'ai besoin d'entendre et de réentendre et de réentendre, même si je les connais par cœur, parce que je suis une mule sur le plan spirituel. Et donc, si Dieu ne martèle pas les choses, ça ne rentre pas, ou plus exactement, ça rentre, et puis après, ça ressort. Et je crois que une église prête, c'est aussi une église qui a présente à l'esprit un certain nombre d'évidences, et c'est ces évidences-là que je voudrais, alors, effectivement, n'apprendre à personne ce matin, je n'ai pas de prétention à ce niveau-là, mais que j'aimerais rappeler pour que, encore une fois, ce soit actuel dans notre état d'esprit pour le moment où, et je suis convaincu qu'il va venir, Dieu va nous envoyer des gens à charge pour nous de nous en occuper et de nous en préoccuper. Alors, tout ça pour vous dire que, effectivement, ce matin, j'ai l'intention de parler de l'Église, et si je vous pose une question, parce que j'ai l'intention de vous faire un peu travailler, si je vous pose une question simple, à quoi l'Église est-elle comparée ? Ben voilà, comme ça. Voilà. À quoi l'Église est-elle comparée dans la Bible ? Les réponses vont fuser. Il y a au moins trois réponses qui viennent à l'esprit. Alors allez-y. Voilà, l'épouse, ça fait un. Allez, pas tout pour le même. Le corps. L'épouse, le corps. Et il y en a une troisième qui vient à l'esprit. L'épouse, le corps. Hop, ouais, c'est... Je ne mets pas ça dans les comparaisons, puisque l'Église, le bâtiment, ça ne vous parle pas. Voilà. L'épouse, effectivement. Alors, j'ai là la liste des textes, et ils sont nombreux, pour ne pas dire innombrables, la liste des textes dans lesquels l'Église fait l'objet comme ça d'une métaphore. Donc soit l'épouse, soit la construction, soit, troisième c'était quoi déjà ? C'était le corps, voilà. Il y en a une quatrième métaphore, et là je ne fais pas ça sous forme de quiz, parce qu'elle est un tout petit peu plus subtile, pour la raison que c'est une comparaison par rapport à un élément de comparaison. Je m'explique. L'Église est comparée, on l'a dit tout à l'heure, enfin, c'est la première réponse qui est venue, à l'épouse, et l'épouse est elle-même comparée, il y a un élément métaphorique dans l'Apocalypse, qui fait que par association, c'est presque des mathématiques, Si on compare à quelque chose qui est déjà un élément de comparaison, ça fait une comparaison entre les deux extrémités. Et cette comparaison, alors, c'est pas la construction, c'est tout à fait, enfin, c'est distinct de la construction. La métaphore dont je vous parle, c'est la ville. Alors, je m'explique, c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 21, d'abord au chapitre 21, versets 1 à 3. Donc, on est d'accord sur l'épouse. Alors, je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu et la mer n'est plus. Et la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je la vis qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc là, c'est simplement une comparaison. C'est pas exactement une métaphore, c'est comme. Donc on peut pas en tirer des conclusions hâtives en disant donc l'Église qui est comparée à l'épouse est aussi comparée à une ville. Là c'est pas suffisant textuellement si on prend l'original. Donc je vis qui s'est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Mais ça donne déjà un indice. Mais c'est ensuite donc au verset 9 qu'on lit. Alors l'un des sept anges qui tenait les sept coupes pleines des sept derniers fléaux vint m'adresser la parole et me dit, viens, je te montrerai, alors là on est sûr du coup, viens, je te montrerai la fiancée, l'épouse de l'agneau. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la cité sainte, Jérusalem. Viens, je vais te faire voir l'épouse et il me montra Jérusalem, la cité sainte. Là, très clairement, il n'y a pas de doute possible sur le sens des mots. L'épouse, c'est la ville. Alors, je vais pas faire de la théologie compliquée, et donc je vais vous demander de me croire sur parole si je vous dis que cette fameuse ville sainte, Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, celle qui descend du ciel, tout ce qu'on lit sur elle rend criant une évidence, c'est que c'est l'anti-Babel. C'est-à-dire que ce qu'on dit, là je vous demande de me croire, parce que la démonstration en plus, c'est pas forcément évident selon les traductions, mais je vous assure qu'on perçoit comme une évidence le fait que tout ce qu'on dit sur Jérusalem, c'est exactement le contraire de ce qu'on a dit de Babel. Et alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait pour nous d'être prêts à... c'est ce qu'on va examiner maintenant, parce que c'est porteur de beaucoup de leçons. Alors, pour mémoire, l'histoire de Babel, bien sûr, dans la Genèse, mais tout le monde connaît ça, mais rapidement quand même, Genèse 11, la terre entière se servait de la même langue et des mêmes mots. Or, en se déplaçant vers l'Orient, les hommes découvrirent une plaine dans le pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, montons des briques et cuisons-les au four. » Les briques leur servirent de pierre, et le bitume leur servit de mortier. « Allons, dirent-ils, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. » Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils d'Adam. « Eh bien, dit le Seigneur, ils ne sont tous qu'un peuple et qu'une langue, et c'est là leur première œuvre. Maintenant, rien de ce qu'ils projetteront de faire ne leur sera inaccessible. Allons, descendons et brouillons ici leur langue, afin qu'ils ne s'entendent plus les uns les autres. Et de là, le Seigneur les dispersa sur toute la surface de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Aussi lui donna-t-on le nom de Babel, car c'est là que le Seigneur brouilla la langue de toute la terre. » Donc là, il n'y a pas besoin d'être très malin, même si on ne connaît pas l'hébreu, pour comprendre que il y a un jeu de mots étymologique entre Babel et le verbe qui veut dire brouiller. C'est là que le Seigneur brouilla la langue sur toute la terre, et c'est là que le Seigneur dispersa les hommes sur toute la surface de la terre. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Et les leçons que je tire pour moi de cette opposition entre la Nouvelle Jérusalem, qui est l'épouse, qui est l'Église. C'est ce que le texte de l'Apocalypse laisse très clairement entrevoir. Et cette ville de Babel qui n'a finalement jamais été achevée, c'est porteur de leçons pour nous. Encore une fois, de leçons qui sont connues par cœur de tous ici depuis toujours, mais encore une fois, ma démarche ce matin, comme je l'ai moi-même, subi en préparant ça, c'est de marteler pour me faire rentrer dans mon petit crâne de piaf à moi des évidences que Dieu souhaite que je garde présentes à l'esprit. La première des choses évidentes, c'est que il y a une des deux villes qui est très clairement le fruit de la volonté des hommes, alors que l'autre est très clairement le fruit de la volonté de Dieu. Dans toutes les comparaisons, puisque la Jérusalem qui vient du ciel est comparée à l'épouse, c'est « je te montrerai l'épouse et il me fit voir la ville », ce qui est frappant quand on prend cet élément de comparaison, donc l'épouse, c'est, alors, dans le livre des Éphésiens au chapitre 5, les versets 26 et 27, donc deux versets seulement. Alors, ça commence par « Marie, aimez vos femmes », etc. « Comme le Christ a aimé l'Église », ça c'est la comparaison. « Il a voulu ainsi la rendre sainte en la purifiant avec l'eau qui lave, et cela par la parole. Il a voulu se la présenter à lui-même splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. » Ça fait quoi? Ça fait, allez, 6 lignes. Il y a 3 fois le verbe vouloir. Il a voulu. Alors, je ne sais pas comment c'est traduit, mais il a voulu cela rendre. Il a voulu la rendre sainte. Il a voulu cela présenter à lui-même magnifique. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. C'est encore une fois tout bête de le dire, alors que on a lu dans le récit de Babel que ce sont les hommes qui se mettent, autour d'une table, en tout cas qui sont à l'origine du projet, sans évidemment que le moins du monde, Dieu ait eu son mot à dire. Et la première des choses évidentes qu'il ne faut jamais perdre de vue quand il s'agit de l'Église, c'est ça. C'est que c'est à Dieu de vouloir. Nous, on est, même quand il s'agit de l'Église, plein de bonne volonté, mais plein de volonté. Alors, même si c'est de la bonne volonté, la question n'est pas est-ce que j'amène à l'Église ma bonne volonté? C'est est-ce que tout ce qu'on fait, tous nos projets, vous voyez, déjà ça dérape au niveau du vocabulaire, est-ce que tout ce qu'on conçoit dans l'Église et pour l'Église, et pas seulement, puisqu'on est membre de l'Église, aussi du lundi matin au samedi soir. Pas seulement le dimanche matin, 2 heures, bien sûr. Autrement dit, est-ce que nous, en tant qu'éléments de cette Jérusalem céleste, on est dans tous nos comportements, dans toutes nos initiatives, dans toutes nos actions, en train de porter un projet qui est celui de Dieu ou un projet qui est celui des hommes? Même si, encore une fois, le projet des hommes, c'est une bonne initiative. Bon, là, Babel, on va le voir après, c'est pas porté par les sentiments les plus nobles qui soient. Mais dans l'Église, personne, en tout cas j'espère, se lève le matin en disant « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour flinguer ce truc ?» Mais quand on est dans le « qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour aider l'Église à progresser ?», on prend déjà la place de Dieu. Alors, encore une fois, je me parle à moi. Pour vous, c'est certainement évident. Mais moi, il faut que je me dise en permanence Ben, tout simplement, ce n'est pas ton Église, c'est celle de Dieu, c'est à lui de vouloir. Et la seule démarche possible, qui est une démarche éminemment spirituelle, c'est qu'est-ce que tu veux pour cette Église ? Et malheureusement, je suis, faut que je m'habitue à, enfin, quand j'aborde des sujets comme ça, il faut vraiment que je parle à la première personne, parce que il ne s'agit surtout pas de porter un jugement contre qui que ce soit ici, sinon contre moi. Mais je suis trop souvent dans le qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce que je pourrais faire, effectivement, pour remplir les chaises. Ben, rien, gros malin. Tu n'es capable de rien. Je bâtirai mon Église. C'est aussi bête que ça. Mais c'est aussi fort que ça. Les hommes n'ont rien fait parce qu'ils n'ont évidemment rien pu faire pour bâtir la Jérusalem qui descend du ciel. Évidemment. Il n'y a pas, dans cette ville qui descend du ciel, il n'y a pas la moindre trace de la moindre activité humaine. C'est purement le produit de la volonté et de l'activité de Dieu. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, encore une fois, c'est tellement banal, tellement évident, mais on est tenté de remplir le vide. Et le vide, il existe non pas parce que Dieu est silencieux, mais parce que je suis sourd comme un pot. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Et sinon, ça ne sert à rien de dire Seigneur. Sinon, c'est une hypocrisie de dire Seigneur. Je vais réfléchir à ce que je vais faire pour t'aider. Surtout, ne m'aide pas. Surtout, ne remplace pas la ville que je veux faire descendre du ciel par une ville que toi, tu veux faire monter de la terre. C'est tellement ridicule. Et je suis tellement... Parce que... Allez, j'ose dire que vous aussi, au moins un peu, allez, encouragez-moi, dites-moi que je ne suis pas le seul à être encore un peu charnel. Parce que si je suis le seul à être un peu charnel et que je m'adresse à des êtres purement spirituels, ben, ce n'est pas à moi d'être derrière le micro, donc venez vite prendre ma place. Chassez-moi de là. Mais si vous avez le même problème que moi, c'est-à-dire si l'homme charnel qui est mort, la personne, homme ou femme, charnel qui est mort, gigote encore un peu, et parfois beaucoup, ben, admettez avec moi qu'il y a ce combat-là à mener. Seigneur, qu'est-ce que tu veux ? Alors, pour tout, j'allais dire toutes les secondes de ma vie, bien sûr, mais surtout encore plus pour l'Église, qui est son projet à lui, et qui n'a pas à être mon projet à moi. Nous avons besoin d'entrer dans son projet, et pas de réfléchir à ce qu'on pourrait bien faire pour l'aider. La réponse, c'est forcément rien. Merci. Il a voulu, et je bâtirai mon Église. Parce qu'au bout du compte, moi je voudrais bien que Dieu puisse raisonner avec moi comme Gamaliel. Vous connaissez l'histoire, moi j'ai beaucoup d'admiration pour Gamaliel, parce que c'est un type très intelligent, et puis surtout, qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Et au moment du procès des apôtres, vous savez, Gamaliel fait partie du Sanhédrin, et au moment du procès des apôtres, tout le monde est prêt, parce que ça, le lynchage, c'est de toutes les générations, de toutes les époques, et ça se fait avec une facilité déconcertante, et donc tout le monde est prêt, alors là, pour le coup, un vrai lynchage. Bon. Et Gamaliel leur dit, attendez, moi j'ai un truc à dire, des comme ça, c'est-à-dire des sectes qui apparaissent, on ne sait pas d'où, il en est une tous les 15 jours, hein, parce qu'il fait la liste, il y a 3 mois c'était machin, il y a 6 mois c'était truc, et puis il a embarqué 400 bons hommes, etc. Il leur dit, bon ça, c'est pas à chaque fois en les exterminant qu'on va éradiquer le phénomène, c'est un phénomène récurrent. Bon. Et donc il leur dit, bah, attendez, c'est simple. Si c'est une initiative humaine, ben, ils vont aller dans le mur, donc laissez-les aller dans le mur tranquillement. En revanche, si, parce qu'une fois de temps en temps ça peut être le cas, si c'est Dieu qui est derrière ça, il vaut mieux pas s'opposer à eux, parce que sinon on s'oppose à Dieu. Et là, on est mal barré. Donc, globalement, il emporte le morceau en disant laissons faire et on verra bien. Dieu ne peut pas faire ça avec moi. Et Dieu ne peut pas faire ça avec nous. C'est-à-dire que quand on a un projet humain qu'on porte, encore une fois, parfois avec de bonnes intentions, il ne peut pas dire je les laisse et puis ils verront bien que c'était purement humain et ça va s'arrêter tout seul. Tout simplement parce que lui, il a un projet aussi. Et que là, par exemple, dans l'image biblique, il ne peut pas y avoir à la fois Jérusalem qui descend du ciel et Babel qui monte de la terre. C'est l'un ou l'autre. Et donc, pour que Dieu puisse réaliser son projet, il faut qu'il anéantisse le projet des hommes. Et quand il s'agit de l'Église, qui est quand même à lui, pas exagéré non plus, si nous on fait quelque chose d'humain, on le fait à la place de ce que lui attend qu'on fasse de spirituel. Et donc forcément, de la même manière qu'il n'a pas dit on va laisser Babel et Babylone, c'est la même image, hein, mais on va laisser Babel grimper, et puis quand ils en auront marre, parce que la ville qui va atteindre le ciel, bonjour, hein. Donc, quand ils s'apercevront que le ciel est encore loin, ils vont finir par se calmer, et puis quand la première génération d'ouvriers sera morte et que la deuxième aura dit « nous, on ne rentre pas dans un projet pareil », l'affaire sera pliée. Pourquoi est-ce qu'il prend la peine de faire avorter le projet dès le début ? Tout simplement parce que lui, il a le sien, le projet, et que l'activité des hommes, c'est ou l'un ou l'autre. Il faut que... la vocation des créatures, c'est d'entrer dans le projet du Créateur et pas l'inverse. Donc, si on est occupé, nous, à un projet qui est le nôtre, mais encore une fois, c'est vrai pour l'Église, mais c'est vrai pour ma vie, tout le temps, je ne peux pas à la fois être dans mon projet et dans le sien. Donc, si, et encore c'est un cadeau qu'il me fait, s'il veut me traiter comme un fils, ce qu'il fait, un peu comme moi je ferais avec mes enfants, il fait en sorte que mon projet s'arrête le plus tôt possible pour que je puisse rentrer dans son projet. Donc, l'interruption des travaux de Babel, c'est un cadeau que Dieu fait aux hommes. Plus vite vous arrêterez vos âneries, plus je pourrai faire descendre ma ville. Je fais une petite parenthèse professionnelle. J'ai reçu il y a 2 jours un chrétien, pour une affaire dont évidemment je ne vous parlerai pas. Et je lui ai dit quels étaient les choix qui s'offraient à lui. Et il m'a dit, c'est vrai que sur le moment je suis un peu tombé de ma chaise, il m'a dit, écoutez, je vais prier pour ça. Et quand j'ai la réponse, je reprends contact avec vous. Sur le moment, j'avoue que je me suis dit, celui-là, il vit dans sa bulle, quoi. Parce que c'était des choses très terre-à-terre. Le choix qui s'offre à lui, c'est... Mais puis après, je me suis dit, mais c'est lui qui a raison. Il n'y a pas de choses qui ne soient pas du tout spirituelles. En fait, idéalement, Dieu me veut à un certain endroit, tout le temps, hein, pour toutes les secondes de ma vie, Dieu me veut à un certain endroit, à un certain moment, pour faire les choses qu'il attend que je fasse. C'est ça, la fonction même d'une créature. Et évidemment, je reprends en permanence, alors heureusement, de temps en temps, il y a des parenthèses heureuses, mais j'avoue que la plupart du temps, je reprends la souveraineté sur mon existence, alors que cette souveraineté-là, clairement, elle lui appartient. A fortiori pour l'Église. Encore une fois, j'enfonce des portes ouvertes. On est d'accord, vous avez le droit de me dire ce que tu nous racontes là, on le sait par cœur. Je suis juste en train de dire, gardons le présent à l'esprit, très modestement. Élément suivant, encore une évidence, Babel monte de la terre, la Jérusalem descend du ciel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que là où Babel se construit, il y a une pesanteur, Newton pourrait vous en parler mieux que moi, C'est-à-dire que les pierres, il faut les soulever. Hein. Là où la Jérusalem se construit, on est dans un autre monde. Là, la Jérusalem, je vais dire les choses de manière très bête, mais quand l'ange dit « Viens, je vais te montrer l'épouse » et qu'il lui montre une ville, c'est pas « Et je vis descendre » un espèce de truc où il y avait des échafaudages, des grues, des machins. Non, non, elle est faite. Elle est finie. Elle est finie. Entièrement construite avant la livraison. C'est pas une vente en état futur d'achèvement, pour parler technique. Non, c'est clé en main. La ville entière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la construction de la ville s'est faite en haut, c'est-à-dire dans un univers spirituel et pas matériel. Et ça, encore une fois, je sais, c'est des banalités, mais l'Église, c'est une construction spirituelle. Et ça aussi, c'est un défaut récurrent chez moi, c'est que j'ai tendance, même quand il s'agit de l'Église, à voir les problèmes très terre-à-terre, avec la pesanteur qui en réalité n'existe pas. Alors, la problématique, elle est d'une autre nature. Mais j'ai pas à me demander, tiens, alors, je reprends toujours le même exemple, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplir toutes ces chaises bleues? C'est déprimant à la longue, bon. On va faire des projets. Alors les projets, encore une fois, c'est pas mauvais en soi. Faut pas s'interdire de tout à coup. Simplement, je reviens à ce que je disais il y a un instant, il faut que ce soit les projets de Dieu. Et puis surtout, c'est pas d'ordre matériel. C'est pas dans la fabrication humaine. J'ai des textes qui me sont venus. Éphésiens 6, verset 12, on connaît ça par cœur. Ce n'est pas à l'humain que nous sommes confrontés, mais aux autorités, aux pouvoirs et aux dominateurs de ce monde des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. La construction de la Jérusalem qui vient du ciel, elle s'est faite, elle est née d'une victoire contre des forces qui sont dans le ciel. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas à l'humain que nous sommes confrontés. C'est aux autorités, au pouvoir, aux dominations du monde des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. C'est une évidence, mais l'Église, c'est quelque chose qui se construit face à une hostilité. Alors, l'hostilité, nous, on la perçoit par les copains ou les collègues ou la famille qui nous dit « va te faire foutre avec tes histoires de religion, tu nous gonfles, arrête avec ça, c'est des conneries ». Mais enfin, on entend tous ça tout le temps, bon, d'accord, enfin plus ou moins élégamment formulé, mais enfin ça revient à ça. Donc du coup, on a l'impression que l'hostilité, elle est là. Et la Bible nous dit « non, non, c'est pas... On n'est pas en train de construire Babel au ras des pâquerettes. On n'est pas en train de lutter contre la pesanteur, contre l'attraction terrestre qui fait qu'une pierre c'est lourd. On est en train de lutter pour construire, pour participer à la construction de quelque chose qui se fait dans le ciel contre une hostilité qui est dans le ciel. Et là, nos armes humaines, on sait bien que ça ne pèse rien. Ça ne vaut rien. Ma seule arme, c'est l'intimité avec Dieu, la prière, notre seule arme. Et une église qui se construit, alors est-ce qu'on verra les résultats? Oui, non, plus loin, plus tôt, plus tard, j'en sais rien, c'est pas mon problème. Encore une fois, c'est Dieu le proprio. Mais elle se construit de toute façon à genoux, aussi. Et j'allais dire d'abord, Luc, chapitre 10, les 72 disciples
revinrent dans la joie en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Et voici, je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds les serpents et les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que ces esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » On n'a pas à faire les malins, mais on a à être conscient que c'est contre des forces spirituelles qu'on lutte. Je voyais Satan tomber du ciel. Pour que la Jérusalem de Dieu, construite par lui et pour lui, puisse descendre du ciel, il faut que nous participions au combat qui fait tomber les unes après les autres. Et la victoire finale, si vous avez lu l'Apocalypse, vous savez de quel côté elle est. Il faut que toutes ces forces hostiles soient vaincues les unes après les autres, pour que nous puissions accueillir cette Jérusalem. Alors, encore une fois, mais je vais vous le dire 100 fois, pardon pour la banalité du propos. Bien sûr que tout le monde sait tout ça par cœur. Bien sûr que je sais tout ça par cœur. Est-ce que j'ai ça présent à l'esprit tous les matins quand je me lève? Et est-ce que je garde ça présent à l'esprit toute la journée? Et est-ce que je garde ça aussi et surtout présent à l'esprit lorsque je prie ou lorsque j'agis pour l'Église? Ça, c'est beaucoup moins sûr. Et merci à Dieu de me rentrer ça dans le crâne à coup de pioche s'il faut. On peut continuer sur les différences. Bien sûr que la question, c'est l'objectif, la différence, le fossé. Pourquoi Babel? Pourquoi Babel? La réponse est dans le texte, pour échapper à la condition humaine. Dans ce qu'elle a, je n'ai pas pu assister, j'avais une réunion, mais je n'ai pas pu assister à la dernière rencontre, et je le regrette profondément parce que c'était sur l'Ecclésiaste. La condition humaine dans ce qu'elle a d'absurde, aurait dit Camus, ou Kierkegaard. Et effectivement, si on ne se place pas dans la position d'une créature dont la seule utilité, la seule fonctionnalité, c'est de glorifier son créateur, la vie, vous pouvez tourner le problème comme vous voulez, n'a aucun sens. Alors, le choix majoritaire des philosophes, c'est de dire « il faut vivre malgré tout avec ce non-sens ». C'est la dernière phrase du livre de Camus, « Le mythe de Sisyphe ». « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Vous connaissez le mythe de Sisyphe, c'est celui qui est condamné, c'est l'image d'une condition humaine absurde. Sisyphe, c'est celui qui, dans l'Antiquité, est condamné à rouler une pierre jusqu'au haut de la colline. Et une fois que la pierre arrive en haut de la colline, ben comme c'est une colline, justement, elle redescend de l'autre côté. Bon. Et Sisyphe passe sa vie à ça. Il passe sa vie à descendre la colline derrière la pierre, en courant. Hop, une fois que la pierre s'arrête en bas de la colline, il vient, et hop, et ça retombe de l'autre côté, et ainsi de suite. Et il faut imaginer Sisyphe heureux, dit Camus. Parce que c'est notre condition de faire des choses dont finalement, on ne perçoit pas le sens. Et c'est ce que l'Ecclésiaste avait dit bien avant Camus, puisque l'Ecclésiaste est un tout petit peu plus ancien que Camus, il a, à propos de Dieu, il a donné à l'homme la notion de ce qui est permanent, c'est-à-dire la notion qu'il y a quelque chose hors du temps, sans pour autant que l'homme puisse prendre la mesure du projet de Dieu depuis le début jusqu'à la fin. Alors, ça vient après une explication, enfin, je ne veux pas refaire la réunion certainement très, très intéressante que vous avez eue, mais ça vient après une explication, il y a un temps pour et un temps pour, c'est-à-dire les contraires ne prennent du sens que si on met du temps entre des actions qui apparemment se contredisent, et donc la conclusion, seul celui qui maîtrise le temps maîtrise le sens, et donc L'homme, il est prisonnier du temps parce qu'il a un début et une fin, et donc il ne peut pas comprendre ces mécaniques, il ne peut pas percevoir le sens de ce que fait Dieu depuis le début jusqu'à la fin, puisque lui-même est enfermé dans un temps dont Dieu est libre. Donc pour nous, forcément, l'existence est absurde. Et la levée de cette absurdité, elle ne vient que dans le rapport à Dieu. Bon, mais on n'est pas là pour un cours de philo, on est là pour dire que l'objectif de Babel, c'est d'échapper à la condition humaine, et d'ailleurs, c'est très exactement ce que dit le texte, et c'est intéressant de ce point de vue-là. Il faut vraiment s'attacher aux mots. Bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Faisons-nous un nom, ce qui veut dire, dans le terme imagé, donnons un sens à notre vie, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre, c'est-à-dire ne soyons pas plaqués au ras des pâquerettes, parce que là, on est dans l'absurde. Et donc, s'élever au-dessus de la condition humaine, c'est pas la première fois que ça germe dans l'esprit tordu de l'humanité, et il ne faut pas remonter très loin, il n'y a pas besoin de tourner beaucoup de pages pour se souvenir que la première fois, cette idée-là, il ne l'a pas trouvée tout seul. Vous allez voir, vous allez être comme des dieux. Alors, si ça, ce n'est pas une invitation à sortir de la condition humaine pour s'élever au-dessus, bon, vous allez être comme des dieux. Donc là, vous allez voir, vous allez... Enfin, nous allons voir, parce que là, ils y pensent tout seuls maintenant. Ça a fait son chemin, donc il n'y a plus besoin qu'on leur souffle. Vous allez voir, on va construire un truc qui va nous sortir de la condition humaine, et du coup, c'est pas moi qui le dis, c'est eux, on va se faire un nom. Alors, bien sûr, faites tout pour la gloire de Dieu, ça aussi, on l'a entendu mille fois. Mais là encore, on est « je suis humain ». Alors, bien sûr que la gloire de Dieu, c'est très clairement, alors, je reviens à mon texte de l'Apocalypse, Apocalypse 22, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la cité, et ses serviteurs lui rendront un culte, ils verront son visage et son nom sera sur leur front. C'est le contraire, quand je dis que c'est le contraire de Babel, mais je pourrais passer des heures à démontrer que c'est le contraire de Babel, on va construire une ville et on va se faire un nom. On va se faire un nom. Alors que dans la ville qui descend du ciel, il écrit sur mon front son nom à lui. C'est quand même autre chose. Mais évidemment, c'est sa gloire à lui qui est recherchée. Alors, ça prend des formes multiples, mais dans tout ce que je fais, et dans tout ce que je fais pour l'Église et dans l'Église, est-ce que je suis bien sûr à chaque fois que c'est ça mon objectif? Et est-ce que je n'ai pas tendance à tirer la couverture? Je vais vous confier un petit secret de prédicateur. Moi, quand je prépare, je finis toujours ma préparation en lisant un verset, toujours le même, toujours le même. Je le connais par cœur, évidemment, mais enfin, je vais quand même vous le lire. Je ne vais pas faire le malin en faisant semblant de connaître toute la Bible par cœur. C'est dans Jean, au chapitre 7. Et c'est le verset 18 du chapitre 7 de Jean. Je ne finis pas la préparation d'une intervention sans lire celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'envoie est vrai et il n'y a pas en lui d'imposture. Si quelqu'un qui parle, pas seulement moi, c'est vrai pour tout le monde, ça devrait être au fronton de toutes les facultés de théologie et de toutes les écoles bibliques, ça. Si celui qui parle cherche sa propre gloire, ou plutôt s'il ne cherche pas la gloire de celui qui l'autorise, malgré sa petitesse de l'orateur, hein, celui qui l'autorise à prendre la parole, si ce n'est pas sa gloire à lui qui est cherchée, alors c'est une imposture. C'est un imposteur. Tout pour sa gloire à lui. Parce que tout est, et vous savez que c'est la phrase qui a bouleversé Luther, tout est de lui, par lui et pour lui. Et ça aussi, c'est tellement évident. Mais c'est tellement pas évident dans mon quotidien. Tout est de lui, par lui et pour lui. Et dans notre vie d'église aussi. Il faudrait qu'on ait des tableaux de bord avec des voyants dans nos comportements. Moi, je voudrais que Dieu m'installe au volant d'une voiture et que... alors, ça serait un arbre de Noël, la voiture, parce que moi, j'ai tout le temps besoin que ça s'allume. Mais que ça s'allume en disant « Hé, oh, tout est de moi par moi et pour moi. Tout pour ma gloire et pas pour la tienne. » J'ai failli dire un gros mot, je vais le dire quand même, pas tout pour ta gueule. Et c'est vrai que humainement, c'est-à-dire la part de ce qu'il y a, ce qu'il y a de charnel en moi, a une tendance consternante à tirer la couverture. Qu'est-ce que je suis bien quand même. C'est pathétique. Faut que je m'arrête là parce que ça fait déjà longtemps que je parle, c'est dommage, encore plein de choses à dire. Bon, je m'arrête. En plus, je vous ai dit que je disais que des banalités. Donc. Non, bon, alors, vite fait. Très vite le reste. Dans le même ordre d'idée, c'est-à-dire à qui la gloire, le contraste est saisissant entre la Jérusalem qui vient du ciel et Babel. Est-ce que c'est la foi ou le sauvetage ? Ça ne vous a pas échappé. La construction de Babel, dans la Bible, ça vient juste après quoi ? Je vous le donne en mille. Après le déluge. C'est-à-dire, on fait les malins, mais aussi, on se donne une assurance, parce que l'assurance, c'est Dieu qui l'a donnée. Plus jamais ça. Le déluge, hop, ça recouvre, et puis après, l'arc-en-ciel, et l'arc-en-ciel, c'est le signe que plus jamais je vous ferai prendre le bouillon. Bien. Donc c'est une question de foi. Est-ce qu'il est fiable ? C'est le premier pas qui coûte. Hein. Quand on a tiré la chasse une fois, on peut recommencer. Donc le plus simple, pour se mettre à l'abri, au moins, si on fait un truc qui va jusqu'au ciel, de toute façon, s'il lui prend l'envie de renoyer la terre, il ne va pas la renoyer jusqu'au ciel. Donc il suffit de réserver au dernier étage, et là on est bon. C'est le sauvetage contre la foi. Et mon activité, ma participation, ma vie dans l'Église et en dehors de l'Église, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi une façon de me mettre à l'abri. Pas oublier que Jean-Baptiste, qui a vu arriver pour se faire baptiser, hein, donc normalement, il faudra être accueillant quand même. C'est plutôt sympa de voir des pharisiens et des sadducéens arriver en disant « on veut être baptisé ». Et Jean-Baptiste, qui était tout sauf un type conciliant, vous avez lu comment il les décalque en leur disant « mais enfant de vipère », c'est-à-dire enfant de serpent quand même. Et enfant de serpent, chez des sémites, ça a un sens. C'est pas juste une injure comme ça, c'est pas bande de crétins. C'est enfant de serpent, enfant du diable, clairement. Qui vous a appris à fuir la colère de Dieu ? Vous venez à mon baptême pour vous donner une assurance sur l'éternité parce que ça fera toujours ça en plus. On ne sait jamais. Pharisiens et sadducéens, alors les sadducéens, de toute façon, on ne croit pas à l'au-delà, rien à foutre. Mais on ne sait jamais, ça peut mettre Dieu de notre côté d'avoir ça en plus. Donc, allons-y pour souscrire une complémentaire sur la vie. T'as payé l'assurance vie ? Ah ben justement, je vais me faire baptiser par Jean-Baptiste. Est-ce que, de temps en temps, mon activité, ma participation, mon appartenance même à l'Église, avec un E minuscule, communauté, est-ce que c'est pas, tiens, ben ça y est, j'ai payé ma complémentaire assurance vie ? Assurance vie éternelle, bien sûr. Est-ce que c'est de la foi ou est-ce que c'est du sauvetage ? On revient au... La réponse, elle dépend de la réponse précédente. Sa gloire ou la mienne ? Mon sauvetage, j'ai tout bien fait pour aller au ciel. J'ai mis Dieu de mon côté. Et Jean-Baptiste, qui n'en rate pas une, dit, attendez, vous croyez que ça s'achète ? C'est quoi ce délire ? Produisez, vous connaissez la phrase qu'il leur balance, produisez les fruits d'un véritable changement. Et ça, moi, je l'entends pour moi. Je l'entends dans un certain nombre de domaines de ma vie où bah, j'attends toujours 35 ans, 40 ans, je ne sais plus combien, oui, 40 ans maintenant, à force de dire 35, 40 ans après que je me sois réconcilié, ou plutôt que Dieu m'ait réconcilié avec lui, par le sang de son fils, les fruits du vrai changement, on les attend toujours, quoi. Donc, merci pour sa patience, parce que moi, j'ai pas cette patience-là avec mes enfants. Donc, merci à lui d'être plus patient avec moi que je ne suis capable de l'être avec des enfants. Produisez les fruits d'un vrai changement. Sinon, c'est juste que vous avez trouvé le truc pour essayer d'échapper à la colère de Dieu. Mais c'est quoi ce truc ? Babylone, c'est ça. Babel, c'est ça. Après, bon, il me restait juste deux points que je vais juste évoquer comme ça. Le premier point, c'est le degré d'investissement. Le degré d'investissement, les hommes construisent la tour. Donc le matin, ils vont sur le chantier, la nuit, on dort quand même. Donc le matin, ils vont bosser sur le chantier, tout se passe bien, un chantier quoi. Donc, ils bossent, ils prennent des pierres, ils les montent comme ça, sous la responsabilité des architectes, des... un chantier. Une fois que c'est fini, alors ils s'arrêtent, il y a la pause de midi, l'apéro, je sais pas, puis après c'est fini, rentrez chez vous, embrassez bien vos femmes, bon, salut Maurice, à demain. Bon. Okay. Dans la Jérusalem qui descend du ciel, dans la construction qu'est l'Église, je ne suis pas seulement un ouvrier, je suis aussi un matériau. Et ça change tout. Je suis intégré, je fais partie de la ville. Je suis un élément de la ville. Et du coup, ça veut dire que je ne suis pas de temps en temps sur le chantier et de temps en temps pas. Ça veut dire que je suis tout le temps sur le chantier. Le chantier, c'est ma vie. Et j'accepte, en étant un élément de cette ville, d'être nié d'une certaine manière dans mon identité, c'est-à-dire dans ma spécificité, pour m'intégrer à quelque chose qui me dépasse. C'est le sens de la parole de Jésus. Celui qui veut garder sa vie, il la garde, d'accord. Mais on ne peut pas être à la fois, on ne peut pas dire à la fois « je suis un élément de la ville » et puis dire, bon, moi le soir à 6h, je quitte le chantier, je rentre chez moi, et le week-end, je ne veux pas en entendre parler. C'est quelque chose qui m'engage identitairement. C'est pas comme passer d'un chantier à l'autre. Le degré d'implication n'est absolument pas le même. Qu'en est-il de mon implication dans l'Église ? Je suis, alors, pour le formuler, je suis membre, ça veut dire quoi ? Est-ce que ça veut dire que mon identité est impactée par ça, ou est-ce que simplement c'est des gens sympas, puis ça me fait plaisir de les voir, puis maintenant on se connaît, et puis voilà, et puis tous les dimanches on passe un moment ensemble, on prend des nouvelles, et puis après chacun s'éparpille. Moi, quand on dit chacun s'éparpille, ça me rappelle exactement le terme qui est utilisé dans la Genèse, où une fois qu'on ne parle plus la même langue, on se disperse sur la surface de la terre. Dans la Jérusalem qui descend du ciel et qui est composée des membres de l'Église, vous ne les voyez pas se barrer, vous voyez pas les éléments de la ville se barrer à 6 heures chacun de son côté. Non, c'est Dieu qui est au milieu, qui est leur lumière, qui est l'objet de leur louange et de leur adoration permanente. Donc ça n'a plus de sens de dire « je suis de temps en temps dedans, de temps en temps dehors ». Dans Éphésiens, j'en ai plus pour longtemps, hein, je vous rassure. Éphésiens chapitre 2, verset 20, il y a une illustration de ça. Vous n'êtes plus. Vous avez été intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse, c'est en lui que toute construction, etc. Vous avez été intégrés. Et. La preuve de cette réalité-là, c'est dans l'Apocalypse au chapitre 21, on identifie, Apocalypse chapitre 21 verset 14, on arrive à identifier certains éléments de la ville. Quand je dis identifier, c'est-à-dire savoir qui c'est. Les remparts de la cité avaient 12 assises, ça tombe bien, on faisait 12, et sur elle, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc, c'est pas seulement une construction mythique, c'est la Jérusalem qui vient du ciel, elle est composée de vrais gens. La preuve, c'est que sur les éléments de cette métaphore qui est la ville, il y a écrit Pierre, Matthieu, etc., 12. Et ce qui est magnifique, alors, ce texte-là, alors, après, on peut lire au verset 19. Donc, les assises des remparts de la cité, donc on vient de dire que c'est les 12 apôtres, s'ornaient de pierres précieuses de toutes sortes. La première assise était de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième, quatrième, cinquième, sixième, jusqu'à 12. 12, dont je vous rappelle, parce que on a les textes quand même, ils ne peuvent pas se défiler. À la base, c'est des bras cassés. C'est des branquignoles. Et il en fait quoi ? Le constructeur, il en fait des pierres précieuses. Il en fait ce qu'il y a de plus beau et ce qu'il y a de plus pur au monde. Et c'est ça qui nous attend. On peut construire Babel, mais si on s'intègre à la Jérusalem qui vient du ciel, je pourrais... En ce qui me concerne, utiliser tous les adjectifs les plus péjoratifs, parce que même si, effectivement, Pierre, moi j'aime bien Pierre parce qu'il parle d'abord, il réfléchit après, il s'emporte, faut pas le chauffer, quoi, enfin bon, etc. Mais si je peux me permettre cette expression, Jésus s'arrache les cheveux à traîner 12 mecs comme ça. C'est pas moi qui le dis. Jusqu'à quand je vais vous supporter, quoi? Tu te traînes 12 branquignoles avec toi, et de temps en temps, tu te retournes et tu dis, mais enfin, les mecs, c'est pas possible, quoi. Il faut que je vous supporte. Alors, vous imaginez s'il l'a fait avec les 12, avec moi. Il faut que je te supporte. Et à l'arrivée, des pierres dont la reine Victoria n'a même pas rêvé. C'est ça qu'il fait avec moi. Si je ne suis pas en train de construire ma petite tour de Babel, bien sûr, parce que là, il ne faut pas être au four et au moulin. Alors, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention à ça et que je garde tout ça présent à l'esprit. Mais c'est vrai que, si je peux me permettre, le jeu en vaut la chandelle quand même. Il va me transformer en quelque chose de magnifique. Et son épouse, dont j'ai non pas la prétention, parce que je lui dois tout à ce niveau-là, mais son épouse, dont je vais être un élément, il dit qu'il va se la présenter pure, sans aucun défaut. Le miracle qu'il va faire sur moi, et j'ai la prétention de le dire sur chacun de nous, c'est ça, c'est de nous transformer pour qu'on soit parfait. Alors, ça vaut quand même le coup de ne pas se lancer dans la construction soi-même. Le dernier point, et il sera midi, il ne sera pas plus de midi quand je m'arrêterai, et pardon d'avoir été long, parce qu'encore une fois, je vous ai dit des choses que tout le monde connaît par cœur, c'était sur l'unité. Et là, il y aurait beaucoup à dire, donc je ne dirai rien, puisqu'il est midi moins une, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'unité. Ils sont unis, les mecs. Parlent la même langue, voilà, tous jeunes, tous copains, sur le même chantier, puis là, la fraternité, je ne vais pas vous parler de la fraternité des chantiers, vous savez très bien que je n'ai jamais travaillé sur un chantier, donc je ne vais pas faire le malin. Enfin, voilà. Sauf que, il suffit qu'on ne parle plus la même langue pour que là, le chantier s'arrête instantanément. Parce que c'était le projet. Qu'alors, non seulement ça s'arrête instantanément, mais le texte prend la peine de nous dire, ils se dispersent. C'est-à-dire, ils ne se demandent pas leur numéro de portable, rien, hop, terminé, plus de contact. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien entre eux qui ressemble à de l'amitié, à de la fraternité, non. Ce qui les a unis, c'est la même ambition. C'est la même idée de construire une tour pour atteindre le ciel. Donc ça, effectivement, ce qui unit les hommes, c'est toujours ça aujourd'hui. C'est de se prendre pour des dieux. Ça, c'est fédérateur. Maintenant, mettez le moindre obstacle, mettez le moindre grain de sable dans la relation entre les hommes, vous verrez que ça part de tous les côtés. La Pentecôte, c'est pas un miracle permanent. Le jour de la Pentecôte, effectivement, on dit c'est l'anti-Babel, parce qu'ils ont tous entendu, enfin, chacun a entendu dans sa langue, a entendu, hein, ça ne veut pas dire que les autres parlaient, bon, bref, c'est des questions épineuses, mais en tout cas, chacun a entendu dans sa langue maternelle. Mais on ne dit pas que, à compter de ce jour-là, tous ceux qui se sont convertis par milliers se sont mis à parler la même langue. Ça, après, c'est les hommes qui ont artificiellement essayé de fabriquer ça en disant « il n'y aura qu'une langue, ça sera le latin ». Et ça a tenu pendant des siècles, mais enfin, ça a tenu comme ça a pu. C'est pas le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est que tout le monde soit intégré dans la construction, malgré les différences et avec les différences. Il ne s'agit pas de fabriquer un prototype d'humain membre de l'Église, c'est-à-dire d'éléments de construction de la Jérusalem céleste. Il n'y a pas deux pierres pareilles dans les pierres précieuses. C'est pas « et ils étaient 12 diamants ». Non. Chacun est une pierre précieuse différente. Et ce que le Saint-Esprit prend bien soin de faire, c'est de rendre unis des gens qui, pour autant, ne deviennent pas uniformes. C'est l'anti-Babel. Qu'en est-il de notre relation en tant qu'Église? L'unité, c'est quoi? C'est juste qu'on a les mêmes idées, qu'on vient du même milieu, que globalement on a les mêmes représentations, comme disent maintenant les psychologues, mais du coup, le moindre grain de sable là-dedans, la moindre différence qui va se percevoir, on va se barrer chacun de son côté. D'ailleurs, ça arrive que malheureusement, de temps en temps, on fait le constat de différence, et puis, alors salut, bon vent, et puis bon vent, et puis plus un signe de vie, hein. Là, c'était qu'on était en train de construire Babel. L'intérêt de la Jérusalem qui descend du ciel, c'est ce qu'on nous dit, j'ai terminé, dans Éphésiens, j'ai beaucoup cité Éphésiens ce matin, Éphésiens 4, versets 4 à 6. Bon, vous connaissez ça par cœur, il y a un seul corps, un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. Chacun de nous, à chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. On est unis par ça. C'est pas le projet qui nous unit. C'est l'unité qui nous rassemble. C'est l'inverse. C'est la démarche inverse. Et je conclue, c'est ma dernière citation, puisque on est en train d'étudier les lettres de Pierre. On ne l'a peut-être pas assez remarqué, mais aucun grief contre ceux qui mènent ce projet à bien, on ne l'a peut-être pas assez remarqué, mais déjà, le premier verset du premier chapitre de la première lettre de Pierre est extraordinaire. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, aux élus qui vivent en étranger dans la dispersion, dans le pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie, élus, etc. C'est magnifique pourquoi ? C'est magnifique parce que là, on s'adresse à des gens qui ne sont ni de la même ethnie, ni qui parlent la même langue, ni rien de tout ça. Et on leur dit quoi ? On leur dit avec le terme, un terme que tout le monde connaît, même ceux qui ne font pas de langue étrangère, avec le terme diaspora, on leur dit « vous êtes un peuple dispersé ». Vous n'êtes pas chacun dans votre région avec artificiellement une appartenance à la même association dont le siège social est à Jérusalem, 22 allée des Peupliers. Non, c'est pas ça. C'est maintenant que vous êtes intégré, sous-entendu, à la Jérusalem qui descend du ciel, vous êtes un peuple dispersé, diaspora, comme les Juifs. Alors que ethniquement, c'est pas vrai, bien sûr. Ethniquement, c'est... Ben, de toute façon, on le sait que les chrétiens sur toute la terre, ils sont ni du même... ils sont parfois même plus de la même couleur. Très bien. Mais ce que le Saint-Esprit donne comme message à travers Pierre, c'est un, vous êtes un peuple, même si vous êtes éparpillés partout, et deux, là où vous êtes... au milieu des autres, même si les autres, ils parlent votre langue, ils sont de la même couleur, de la même, ils travaillent dans le même... Vous êtes étrangers. C'est-à-dire, vous avez, en quelque sorte, spirituellement, changé de nationalité. Vous êtes sorti de votre milieu, de votre nationalité humaine, pour entrer dans une nationalité spirituelle. Cette nationalité spirituelle, elle vous unit beaucoup plus fortement, puisque vous êtes un seul peuple, une seule nation, éparpillée sur la terre, mais elle vous unit plus fort qu'à ceux qui sont vos familles, vos voisins. Si, c'est encore la parole, c'est le développement de la parole de Jésus. Si vous ne me préférez pas à vos parents, à vos enfants, pas digne de moi. Tous ceux qui vous entourent et qui vous sont a priori tellement proches, vous devez les considérer. Alors, il ne s'agit pas de les mépriser. Il ne s'agit pas de leur faire la tête, mais ce sont des étrangers. Par rapport à votre appartenance, je croise le regard de Tahar. Moi, ça me gêne toujours beaucoup quand je parle de quelque chose que d'autres pourraient beaucoup mieux expliquer à ma place. Et Tahar, il pourrait vous dire que quand on se donne au Christ, l'appartenance à la nation du Christ, ça fait se sentir dans une diaspora, c'est-à-dire en communauté avec un peuple, avec une nation, alors que, et lui le vit certainement beaucoup plus douloureusement que d'autres ici, ceux qui sont nos proches naturellement, humainement, deviennent des étrangers. Et parfois, même si on ne se comporte pas vis-à-vis d'eux comme ça, eux se comportent comme ça vis-à-vis de nous. Je me trompe, Tahar ? Voilà, bah, c'est vrai que c'est en pleine actualité. Bon, je ne vais pas aller plus loin, parce que alors là, pour le coup, je suis en train de me faire mentir, mais je voulais juste voilà, dire ça ce matin, j'ai été beaucoup trop long pour dire, bah, gardons tout ça présent à l'esprit, parce que c'est des choses connues, archi-connues, rebattues, mais que Dieu, en tout cas, me donne à moi, me fasse la grâce de ne jamais perdre tout ça de vue. Parce que la Jérusalem à laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes à la fois des éléments de construction, mais aussi des constructeurs, puisque Dieu nous a fait ce cadeau de participer au projet qu'il a lui-même déterminé comme étant la finalité de l'histoire, il faut que je garde présent à l'esprit tout ça pour être vraiment utile. Je rappelle que le mot clé de Paul par rapport à nos rassemblements, au sens d'église, église en grec rassemblement, c'est l'utilité commune. Alors, que Dieu me fasse la grâce d'être Onésime, pour reprendre le terme, mais en tout cas, ne serait-ce qu'un atome ou une molécule de son projet et de sa construction. Merci.